quête de sens. Une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Marie-Ange de Montesquieu.
L'esprit est le côté partiel de l'homme, le cœur est tout. C'est ce qu'aurait dit un jour l'essayiste Antoine de Rivarol. Alors, quand le cœur a trop souffert, comment croire en l'amour ? L'amour est fait de finesse, écrivait de son côté un certain Maupassant dans Le Baiser en 1882. L'amour est fait d'imperceptibles sensations, poursuit-il. Nous savons qu'il est fort comme la mort, mais il est aussi fragile que le verre. Le moindre choc le brise. Alors comment aimer ? Tout simplement, quand on n'a pas été aimé. Question que je vais poser à mes quatre invités dans cette émission en quête de sens, que j'ai la joie d'animer grâce à vous, chers auditeurs. Nous allons bientôt fêter d'ailleurs les 5 ans d'Enquête de Sens, le 10 février prochain. On en reparlera bien sûr prochainement. Voilà cette émission sur Radio Notre-Dame et sur RCF. J'ai la grande joie d'accueillir pour commencer Flavie Taine. Bonjour Flavie. Ravie de vous recevoir. On va ouvrir votre micro, ce sera quand même mieux. Vous qui êtes, merci Flavie, vous êtes sexothérapeute, thérapeute de couple. Vous avez publié notamment Aimer de tout son cœur. De tout son corps aussi, hein ? C'est le titre de votre livre, Aimer de tout son corps, chemin de libération vers une sexualité qui vous ressemble aux éditions Erol. Nous sommes également en compagnie de Stéphane Clerget, que nous connaissons maintenant un peu plus. Bonjour Stéphane.
Bonjour Marie-Ange.
Vous êtes toujours médecin psychiatre, pédopsychiatre. Vous avez écrit de nombreux ouvrages autour notamment de l'intelligence spirituelle des enfants. Mais là, le petit dernier est consacré justement à ce sujet du jour. Ne plus souffrir en amour. Alors, il est en lien partiel avec l'émission, bien sûr. Comment prévenir et guérir les blessures affectives, parfois qui peuvent nous priver privé d'espérance, d'espoir en l'amour. Cet ouvrage qui est paru aux éditions, j'ai oublié les maisons d'édition.
La Musardine,
pardonnez-moi. Et nous sommes également en compagnie, on continue notre petit tour de table de deux Thierry. Alors on va essayer de ne pas se tromper aujourd'hui, Thierry Pommier. Bonjour Thierry.
Bonjour Marie-Ange.
Ravie de vous revoir dans cette émission.
Ravie également.
Vous qui êtes un peu le monsieur émotion de notre plateau. Oh bah si
c'est trop d'honneur.
C'est ça? Alors, si on va préciser un peu quand même,
oui,
votre parcours. Vous êtes conférencier, consultant, formateur en intelligence émotionnelle, docteur en sciences économiques et en sciences politiques. Vous êtes un homme très complet, dites-moi Thierry Pommier. Écrit donc Homo Emoticus, l'intelligence émotionnelle au service des managers chez Diateno. Nous sommes enfin en compagnie de Thierry Ginès. Bonjour Thierry.
Bonjour.
Ravi de vous revoir, Thierry. Ben, presque ravi. Un an plus tard, j'ai l'impression.
Partagé.
Hein. Oui, c'est toujours un bonheur de vous recevoir. Vous êtes médecin spécialisé en psychiatrie, historien de la psychiatrie. Vous avez cofondé la Société internationale d'histoire de la psychiatrie et de la psychanalyse. Rien que cela. Vous avez surtout une histoire personnelle qui nous intéresse aujourd'hui. Vous qui avez été élevé, j'ai presque envie de dire presque seul, d'une certaine façon. Vous vous êtes élevé tout seul.
J'ai fait comme j'ai pu.
Vous avez fait comme vous avez pu. Et vous avez écrit « Souviens-toi de moi dans les ténèbres » aux éditions L'Harmattan. C'est un peu votre histoire qui est racontée dans ce livre, n'est-ce pas ?
Ah, c'est complètement
même complètement.
Histoire.
Je n'ose jamais dire, parce qu'il y a toujours un peu de roman.
À partir
on dit toujours
d'un
que...
coup de téléphone tout à fait inattendu, d'un inconnu qui n'est plus un inconnu maintenant. Oui, tout à fait.
Qui était votre père, en fait ?
Pas du tout. Père est mort, j'avais 4 ans. Il était parti... En territoire d'opération extérieure en Indochine, 2 ans auparavant, autant dire que j'ai perdu mon père à l'âge de 2 ans.
Ouais. Voilà. Et là, c'était donc
c'est un inconnu qui était le fils d'un compagnon d'armes de mon père en Indochine, qui relisait à la faveur du confinement les papiers laissés par son père. Et dans les papiers laissés par son père, il a trouvé à de nombreuses reprises évoqué la mémoire de mon père. Et il a tapé sur Internet pour voir lieutenant Paul Ginès, et il a trouvé un article qu'on m'avait commandé 18 mois plus tôt, que la grande revue de l'état-major de l'armée de terre en France m'avait commandé pour un numéro complet consacré aux conséquences de la guerre, d'une manière générale, sur les enfants. Et il se trouve que le secrétaire général était de cette revue était quelqu'un que je connaissais par mon métier, il m'avait commandé un article sur la remise de la Légion d'honneur dans la cour d'honneur des Invalides par le général Monclar quand j'avais 5 ans, donc l'année d'après la mort de mon père, dans une cérémonie imposante, Monclar étant lui-même très imposant, puisque comme vous le savez, Monclar était la seule bataille gagnée par la France en 1940 contre les nazis à Narvik, et c'est lui qui me remet la Légion d'honneur de mon père, donc... Voilà, c'est à partir de là que s'est fait ce livre.
Flavie Taine, est-ce qu'on peut dire qu'on a tous un peu manqué d'amour, ou alors c'est sûr que si on se comparait chacun les uns les autres, il y a forcément des histoires qui semblent plus tragiques que d'autres, évidemment. Mais finalement, ce sujet, est-ce qu'il nous... Parce que c'est vrai que ça peut paraître quand même un peu radical, comment aimer quand on n'a pas été aimé. Est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont pas été aimées du tout, d'abord ?
Ah bah, y en a, bien sûr.
Ça existe.
Vous écoutez certains témoignages. Moi, c'est toujours quelque chose que je trouve extrêmement violent, et même en consultation, quand je reçois des personnes qui racontent la façon dont ils ont été traités, considérés par leurs propres parents, c'est assez révoltant, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas... aujourd'hui, on apprend de plus en plus d'outils pour accueillir ses émotions, etc. Mais il n'y a pas de... On n'apprend pas à aimer. Et donc, notre école de l'amour, elle se fait dans le cercle familial.
Ouais.
Et c'est vrai que si on schématise, si on simplifie un peu, bah, la façon dont j'ai reçu l'amour inconditionnel de mes parents va me permettre à mon tour d'aimer. Et même dans l'apprentissage des relations, quand on a des frères et sœurs, etc. C'est vraiment une école d'apprentissage de l'amour. Mais quand... l'amour a manqué, quand il y a eu de la violence, de l'humiliation, du rejet, de l'abandon, etc., bah, c'est sûr que ce n'est pas un très bon exemple. Donc après, bien sûr qu'il y a des histoires plus tragiques que d'autres, et après, chaque chemin est unique. Et moi, ce que je trouve merveilleux, c'est de voir que ce besoin profond qu'il y a au cœur de chaque personne d'aimer et d'être aimé, eh ben, il permet des parcours de résilience incroyables.
De déplacer les montagnes parfois.
Ouais.
À partir
et
de
réparer et de mettre du baume sur ces plaies qui sont parfois des gouffres.
Mais oui. Alors, je ne sais pas si vous avez vu cette étude récente, Stéphane Clergé, selon laquelle le plasma, il se transmettrait. Vous l'avez peut-être entendu autour de cette table. Cette femme qui raconte effectivement que, je crois que c'est une chercheure américaine qui a découvert qu'au fond, les traumatismes se transmettaient même par le sang, quoi. On a l'ADN change en fonction de chez nos enfants, par exemple, peuvent être impactés par quelque chose, un traumatisme qui a lieu, qui s'est produit dans la vie de sa grand-mère ou de son grand-père ou de ses parents, etc. Et alors, d'une certaine façon, ils sont le réceptacle direct d'un traumatisme. Ils sont récipiendaires d'un traumatisme, finalement. Un petit peu comme s'ils avaient en partie vécu. C'est un peu particulier. Vous l'avez, je ne sais pas si vous avez parcouru ou si vous êtes tombé sur cette... C'est tout nouveau, hein, ça vient de tomber, si je puis dire. Mais je ne sais pas. Je sais pas si c'est très crédible ou pas, cette nouvelle découverte. Mais...
Alors, les psychiatres, les psychologues avaient constaté, hein, quand ils s'intéressent au transgénérationnel, ouais. au marquage émotionnel des descendants, mais effectivement, on sait maintenant qu'il y a des traductions physiques, hein, des inscriptions dans les gènes. Mais enfin, ouais. Ça ne concerne pas que les traumatismes. Hein. Par exemple, la famine s'inscrit aussi. Enfin, il y a d'autres événements de vie comme ça peuvent s'inscrire parce que notre génétique est évolutive.
Ouais.
Oui, on découvrira aussi que d'autres choses peuvent marquer en dehors du traumatisme.
Est-ce que l'injustice est de ce monde côté amour ? Est-ce qu'effectivement on peut faire une corrélation ? Quand on n'a pas été aimé, c'est quand même difficile d'aimer à son tour, de prime abord. J'insiste, je pose la question cette fois à Stéphane Clergé.
Oui, alors il y a des enfants effectivement qui meurent de ne pas être aimés, hein,
ouais.
Des bébés qui peuvent mourir de ne pas être aimés, ou en tout cas qui peuvent tomber malades.
Oui.
Et qui, ce faisant, sont hospitalisés, vont bénéficier de l'attention d'autres personnes. Parce que finalement, les petits humains, on a besoin évidemment d'amour pour exister, pour vivre. Et donc, un peu comme une plante dans un désert, on va chercher la moindre goutte d'eau. Donc les bébés, heureusement, plus ou moins selon leur personnalité, la capacité à aspirer de l'amour là où ils peuvent en prendre... Donc, ils peuvent piocher ici ou là, et parfois même, ils vont interpréter comme de l'amour quelque chose qui n'en serait pas. Donc, j'allais presque dire que les gestes du quotidien d'un parent qui serait officiellement non aimant,
ouais.
Le fait de lui changer les couches ou de le nourrir, c'est de toute façon vécu par l'enfant comme de l'amour. Donc, l'enfant va de toute façon essayer de s'approprier des traces d'amour, parfois s'illusionner, hein, ça fait partie des compétences du nouveau-né aussi, et percevoir de l'amour ici ou là, je me souviens...
S'inventer un parent aimant,
voilà,
ça voulait dire par là.
Des moments d'amour. Il va morceler, il y aura dans le parent, il sera maltraitant, Mais parfois, d'ailleurs, il s'accorde mieux avec une forme de rejet que l'indifférence, ce qui est quand même le pire pour un nouveau-né, c'est évidemment une indifférence
totale. C'est terrible. Thierry Pommier, effectivement, il y a une part d'émotion là-dedans, effectivement. Qui est impactée par un manque d'amour. Allez-y, rapprochez-vous bien.
C'est ce que Stéphane disait, il parlait de... Maintenant, c'est un peu théorisé par un psychiatre qui s'appelle René Spitz, l'hospitalisme, qu'effectivement, dans les premiers mois, les premières années, les carences affectives peuvent laisser des séquelles à la fois physiques, de retard de développement, mais aussi des traumatismes psycho-affectifs qui peuvent avoir un effet sur le long cours, et autrement dit, sur toute la vie. Donc, avoir un sentiment d'abandon, un syndrome d'abandon qui perdure et qui est lié à des carences affectives et donc à des carences, des privations émotionnelles. Et notamment, les émotions...
C'est prouvé, hein.
Oui, c'est prouvé. Les émotions sur lesquelles je travaille, c'est notamment la gratitude, c'est-à-dire que tous les dons que l'on reçoit, parce que l'amour active la gratitude. Tout acte d'amour que je reçois, que ce soit effectivement une caresse et ou le toucher,
active la gratitude.
Pour le bébé, les enfants, justement, c'est ça qui manque, c'est cette tendresse, notamment maternelle, mais aussi c'est les paroles, c'est tous les langages de l'amour pour faire une référence à Gary Chapman, qui évidemment sont des dons et qui peuvent créer des expériences de gratitude. Et ce capital de gratitude se fait déjà se rendre compte qu'on est aimé. Et donne envie à son tour justement d'être don soi-même et donc d'aimer soi-même. Et donc c'est cette dynamique vertueuse qu'il faut pouvoir amorcer dès le plus jeune âge. Donner des expériences de gratitude pour que l'enfant lui-même envie de s'ouvrir au don.
Les enfants de la guerre dont vous parliez tout à l'heure, Thierry Ginest, le soulevait notamment le fameux Boris Cyrulnik, que l'on ne présente plus, qui a même inventé le mot « résilience », c'est pas par hasard, et pour rejoindre ce que disait peut-être Flavie et notre ami, surtout Flavie tout à l'heure, et notre ami Stéphane Clerget, au fond, c'est presque à réinventer, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on n'en a pas eu, ou que ça a été très dur, que on a reçu que traumatisme, qu'on n'a pas le droit d'aimer à son tour, c'est quand même plus fort que tout, j'ai l'impression.
La notion de résilience, je vais aller droit au but, est une imposture.
C'est-à-dire, ça c'est intéressant.
C'est une imposture, et je suis très heureux de pouvoir le dire ce matin, après avoir entendu tout à fait par hasard Delphine Horviller, il y a 2 heures, évoquer la même chose que ce que j'évoque depuis plusieurs années, que la notion de résilience, est une imposture.
Pourquoi ?
Je vais vous dire tout simplement ce qu'elle répète, c'est beaucoup plus, c'est plus modeste, mais je pense exactement la même chose. C'est une imposture parce que, imaginez un deuil, à n'importe quel âge, mais après on parlera du deuil des petits-enfants, un deuil à n'importe quel âge. Alors, les théoriciens de la résilience disent, c'est long, il y a un travail de deuil. Ça ne veut rien dire, un travail de deuil, d'ailleurs. Travail, ça renvoie à la construction d'un mur. Psychiquement, ça ne marche pas du tout comme ça, la construction de l'univers psychique. Première chose, ce travail de deuil, donc, on va regarder le mot, se fait ou ne se fait pas, ou se fait mal. Après cela... puisqu'il y a résilience, c'est-à-dire retour à l'état antérieur, c'est ça la définition de la résilience, un traumatisme sur un métal va entraîner des conséquences, mais au bout des conséquences, il y aura un retour à l'état antérieur. Quand vous avez perdu quelqu'un, que ça déchire en vous quelque chose qui était construit jusque-là et qui n'existera plus au travers de la présence et de l'échange avec l'autre, C'est irréparable. Il faut vivre avec ça. Il ne faut pas se raconter de carabistouille. On est dans un monde, je sais bien, où il est difficile de regarder en face les insultes faites à l'univers psychique. Et notamment à l'univers psychique des enfants. Je vais vous donner un exemple.
C'est irréparable, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas... comment peut-on dire ? Constructif.
C'est irréparable.
Voilà.
C'est la première chose qu'il faut accepter.
D'accord.
Sinon, on ne construira rien de bon. On ira, on se retrouvera en consultation avec vous.
Mais cela dit, c'est pas antinomique, hein, finalement, parce que vous n'êtes pas en train de dire que ça n'existe pas, Flavie, quand il y a un traumatisme.
Non, bien sûr.
Ça a existé.
Oui, ça a existé, mais ce que ça me fait penser à ce que vous évoquez, je ne sais pas si vous connaissez cet art japonais quand il y a eu un vase brisé.
Oui.
J'ai pas le mot exact.
Non, le.
Et en fait, il répare en mettant de la peinture d'or, etc. Et ça fait un objet qui a à peu près la même fonction et qui est plus exactement le même, mais qui a été embelli par ses fêlures, par ses. Attention, hein, je ne suis pas en train de dire que nos traumatismes vont nous embellir et pas du tout. La souffrance, c'est une violence, c'est inacceptable. Et il faut apprendre à vivre avec les traces laissées par les traumatismes qu'on a pu vivre. Mais pour moi, le parcours de résilience, le chemin que peuvent emprunter des personnes qui ont vécu des traumatismes, c'est de pouvoir dire, en fait, il y a une vie qui est possible. Je ne vais pas pouvoir oublier ce traumatisme, il y a des séquelles, il y a des cicatrices, etc. Mais je vais apprendre à vivre avec ça. Et concernant la question que vous posez aujourd'hui, c'est sinon, enfin, quelle espérance y aurait, en fait, si jamais je me disais, en fait, moi, je n'ai pas reçu les compétences d'amour que j'aurais dû recevoir, puisque c'est le rôle des parents, quand même, c'est vraiment de donner, d'accompagner l'enfant pour qu'il soit... un adulte autonome et il va pouvoir acquérir cette autonomie et donner tout son plein potentiel en ayant reçu la certitude qu'il est aimé de manière inconditionnelle. Donc le fait qu'il n'ait pas reçu ça, ça voudrait dire qu'il serait condamné à être juste la somme de ses traumatismes, dysfonctionnant, incapable d'être en relation avec les autres. Donc c'est évident que ça laisse des traces, c'est évident que c'est plus difficile d'aimer de façon juste quand on a été blessé, quand on n'a pas été aimé, mais c'est possible, ça s'apprend, ça, parce qu'il y a
ça
quelque chose,
il y a un désir aussi,
mais ce désir, je pense qu'il est il est là chez chacun. J'écoutais cette semaine là le témoignage d'un jeune homme qui a vraiment vécu le rejet total, enfin la perte de son père, qui était un peu la seule personne un petit peu structurée et structurante dans son environnement. Il le perd très jeune, sa mère le rejette, il est confié à son parrain qui l'abuse pendant des années. Donc on se dit, ce gars-là, il est quand même mal parti dans la vie. Et d'ailleurs, il explique très très bien qu'il acceptait les abus de son parrain parce qu'il recevait de l'attention. C'était une forme d'amour, finalement. Et comme il ne l'avait pas reçu de sa mère...
Exactement.
Et jusqu'à ce qu'il prenne conscience à un moment donné que, en fait, c'était pas du tout de l'amour et qu'il rejette ça, etc. Et aujourd'hui, il a dû... Enfin, je ne sais pas exactement, je ne connais pas son histoire intime, mais il est quand même en capacité d'être en couple et d'aimer. Mais ça veut bien dire qu'il y a quelque chose, il y a une force d'amour qui est ultra puissante, moi j'en suis convaincue, et que en recevant aussi de l'amour, quand on accepte de le recevoir... Ça vient mettre aussi du baume sur les blessures qu'on a pu vivre.
Du baume, pas de la disparition et de l'effacement, pas de la cancel souffrance, quoi, n'est-ce pas ? Eh bien, merci beaucoup les uns les autres. On se retrouve, si vous permettez, après cet hymne à l'amour. Aimer est plus fort que d'être aimé. Daniel Balavoine, bien évidemment. Un petit flashback historique à tout de suite.
En quête de sens, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. We'll be right back.
Nous voilà de retour dans cette émission Quête de sens, comment aimer quand on n'a pas été aimé. En fait, il faudrait 40 émissions, hein, je pense, hein, parce que là, franchement, il y a tellement de choses à dire, à évoquer, à penser, et à repenser, et à reposer sur la table d'opération avec mes quatre invités, Stéphane Clerget, Thierry Ginest, Flavie Ten et Thierry Pommier. Effectivement, alors c'est quand même intéressant, Thierry Ginest. Est-ce que on était en train un peu de malheureusement de spoiler l'émission pendant ces dernières quelques minutes de Daniel Balavoine. C'est quand même intéressant d'évoquer cet enfant. Alors, sans détailler voilà, votre travail colossal que vous avez mené sur le premier enfant de la psychiatrie, qui est dans notre sujet, puisque c'est un enfant qui a été abandonné par son père, égorgé, mais vous disiez que d'une certaine façon, il a peut-être été aimé par son père. En fait, on n'en finit jamais, quoi, dans cette. C'est affreux. Enfin, moi, c'est vous qui dites ça, c'est pas moi. Hein,
mais... Oui, ben vous répétez bien le fond de ma pensée.
Allez-y.
Non, tout à fait. On ne va pas raconter l'histoire de l'enfant de l'Aveyron. Tout le monde sait effectivement que tous les praticiens et tous les théoriciens de la psyché, ouais, d'une manière générale, pas simplement de la psychiatrie de l'enfant, en font, au sortir de la Révolution française, l'enfant à propos duquel va se construire l'aliénisme et en particulier la partie psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Il lui est arrivé le pire qui puisse arriver à un être humain, c'est-à-dire d'être abandonné, on ne sait pas trop pourquoi, dans la forêt,
ouais,
et il a survécu, on ne sait pas trop comment, toujours est-il qu'il a survécu et qu'il est mort autour de l'âge de 40 ans, après avoir été élevé, après avoir été élevé à la demande de Lucien Bonaparte par l'établissement des sourds-muets à Paris, par un jeune médecin qui va devenir immensément célèbre, académicien de médecine, etc., qui, curieusement, n'aura jamais d'enfant, ne se mariera jamais, on ne lui connaît aucune aventure affective, ça pose... justement, peut-être une des conditions, ouais, par lesquelles on peut s'occuper avec une chance, non pas de guérison, mais d'apaisement des tensions, puisque c'est ce qui s'est passé pour cet enfant, une des conditions, c'est d'être soi-même, d'avoir en soi-même visité, d'une manière ou d'une autre, les territoires insupportables qui peuvent exister dans un être humain, dans la psyché d'un être humain, que ce soit par des traumatismes infantiles précoces et trop précoces, ou que ce soit par le développement d'un intérêt pour les profondeurs, voire pour les noirceurs, de tout psychisme humain.
Mais c'est vrai que c'est intéressant, parce que je me disais, dans abandonner, il y a donné aussi, Flavie Ten, et peut-être que voilà, tous les enfants abandonnés n'ont pas été forcément non aimés ou indifféremment aimés par voilà, le ou les parents qui les ont abandonnés. C'est assez édifiant de se dire ça. Enfin, là, on rentre dans un tourbillon de réflexion, mais qu'est-ce que vous en dites par rapport à ce qui a été évoqué par notre ami Thierry ?
Après, ce qui est très complexe chez l'être humain, c'est que chaque personnalité, chaque psychisme a aussi son temps de maturation, sa capacité à faire face à ses traumatismes.
C'est au cas par cas.
Donc c'est vraiment au cas par cas, il n'y a pas un chemin pour guérir de ses blessures. Moi, je suis convaincue qu'on peut guérir de ses blessures, de ses traumatismes, et que justement, l'amour, c'est un des... un des antidotes. J'ai pas de mots assez forts, je crois, pour le dire. Et quelle que soit la forme de cet amour-là, ça peut être dans l'amour conjugal, mais ça peut être aussi dans l'amour avec des amis, dans l'amour... Enfin, voilà, l'amour prend plusieurs formes. Mais du coup, il n'y a pas un chemin. Il y a ce que le psychisme est capable aussi de mettre en œuvre. Pour certaines personnes, ça va passer par une phase de déni parce que c'est un mécanisme de survie. Sinon, la réalité est vraiment trop insupportable.
Donc, ne s'attacher à personne, par exemple.
Bah, y a des personnes aussi qui vont bâtir des murailles et ça va être très difficile pour eux de recevoir l'amour des autres. Et c'est tout un travail de prise de conscience de ce qui blesse, etc.,
qui va permettre d'assouplir ça. Et ne pas donner lieu, effectivement, à ces fameux schémas amoureux, alors qu'on connaît bien aujourd'hui, alors de tomber à chaque fois sur des toxiques, hommes ou femmes, de tomber sur le bad boy, de tomber... Enfin, tu vois, voyez, c'est toujours... alors ça, on est chez vous, dans votre rayon, notre ami Stéphane Clergé, à ne plus souffrir en amour. C'est les schémas qui se répètent, on sait tout ce que ça donne et ce que ça... Et à quel point c'est récurrent, souvent. Et alors qu'on ait été abandonné, pas abandonné, aimé, plus ou moins aimé, c'est vrai que c'est mystérieux. Mais est-ce qu'on peut toujours l'expliquer d'une certaine façon quand on voilà, quand on traverse, quand on attire toujours le même type de personnes, par exemple, qui sont pas les bonnes, on va dire ça comme ça. C'est jamais par hasard, quoi. Est-ce qu'on peut le dire?
Ouais, enfin, est-ce que
ça s'explique toujours. Hein,
est-ce que oui, est-ce que le hasard existe déjà. En tout cas, qu'on est abandonné, c'est pas forcément une malchance. Hein, c'est
d'accord.
Parfois, c'est un consentement à l'adoption. Donc, des fois, il vaut mieux être abandonné par des parents maltraitants pour bénéficier de parents aimants plutôt
que finir comme la jeune fille qui était dénutrie par sa mère, etc.
Oui. C'est sûr. Alors après, effectivement, est-ce que la manière dont on a été aimé influence la manière dont on aimera adulte? Très certainement. De différentes manières, parce qu'on a été heureusement aimé, pas forcément par une seule personne. On l'espère, au moins un père, une mère, et puis peut-être d'autres, des frères, des sœurs, d'autres personnes au cours de sa vie. Donc tout ça, ça fait quand même un mélange assez complexe. Hein. Mais c'est vrai qu'on a des jeunes adultes qui nous racontent des histoires amoureuses qui ont l'air de se répéter. Le fait qu'on reprenne toujours le même type d'histoire, ça fait effectivement sens et ça peut s'expliquer. Maintenant, il y a aussi des gens qui tombent toujours sur des personnes bienveillantes. Hein. On ne tombe pas toujours sur des personnes toxiques. Mais oui, ces histoires de répétition, c'est des choses qui peuvent s'interpréter, se décoder, et on l'espère ensuite pouvoir s'interrompre. Hein. Si tant est qu'on y parvienne, parce que malheureusement, dans ces échecs, il peut y avoir de la jouissance aussi. Mmh. C'est ça aussi, comme on peut avoir aussi recherché de la maltraitance, parce que il y a une forme de plaisir à être maltraité, parce qu'on a érotisé la violence qu'on a pu subir. Donc c'est ça qui est difficile, c'est de renoncer à cette jouissance-là, de renoncer à une jouissance de quelque chose qui nous fait du mal.
Mmh. Et, vous êtes d'accord avec ça ou pas ?
Et d'accepter une jouissance qui nous serait plus bénéfique, qui nous aiderait davantage à grandir.
Oui, je rejoins à peu près ce que vous dites. C'est un peu le même mouvement qu'il y a avec dans des addictions à des substances. En fait, l'amour toxique, on va le chercher parce qu'il apporte une certaine adrénaline, des émotions très très fortes qui vont être comme un énorme flot qui va masquer la souffrance. Exactement comme ce que décrivent les addicts aux substances ou les alcooliques, c'est que, en fait, je souffre tellement, je vais noyer cette souffrance dans l'alcool. Et ben, y a des personnes qui vont noyer leur souffrance dans des relations toxiques parce qu'il y a aussi une certaine intensité, parce que ça vient générer quelque chose de fort. Et puis après, c'est exactement les mêmes mécanismes. Il y a la chute, la redescente, et jusqu'à ce qu'on aille chercher à nouveau la consommation de substances qui va redonner le boost. Donc, il y a des mouvements comme ça, un peu autodestructeurs. Quoi.
Ça vous parle, Thierry Ginest et Thierry Baumet? Thierry Ginest, ça vous parle, ce rapport étrange et un peu biaisé, un peu pervers, d'une certaine façon, à l'amour? C'est étonnant, ce que vous racontez.
Ce qu'il faut bien voir, c'est que un enfant, par exemple, qui perd sa mère parce que elle meurt quand il est nourrisson ou tout petit, il va vivre comment? Il va vivre, certes, il y aura après d'autres rencontres, peut-être des belles-mères, bon, etc. Mmh. Mais il va rester que c'est un enfant dont la mère a fait défaut. Voilà ce qui s'emmagasinera dans la tête et dans le cœur de cet enfant. Bon. Donc, ce qu'il faut qu'il parvienne à affronter, c'est que cette mère qui a fait défaut, elle a fait défaut, elle s'est comportée, si je puis dire, je vais être... on va me jeter l'anathème sur ce que je dis. Elle va se comporter comme une mauvaise mère. Voilà ce qui restera dans la tête de cet enfant. Même si, par ailleurs, il aura d'elle, par d'autres côtés, image de bonne mère, mais ce sera l'image de sa mère, sera une image trouble, biaisée, difficile à supporter. D'accord. Et s'il est incapable d'affronter en lui qu'elle a été aussi une mauvaise mère, j'allais dire, comme il m'a fallu affronter que mon père avait été un mauvais père, de ce point de vue-là, que ma mère, avec ses inconséquences affectives, avait été, dans la suite, une mauvaise mère. Et si je n'avais pas pu me dire cela, le voir et accepter que la réalité fût insupportable, effectivement, je ne serais probablement pas là aujourd'hui.
Ouais. Ouais, Thierry Pommier, vous parliez tout à l'heure de l'origine du vase de l'ikigai, hein, c'est ça ?
Non, kintsugi.
Kintsugi, pardon. L'ikigai, c'est autre chose.
C'est autre chose.
N'importe quoi, décidément. Thierry Pommier, et vous voyez, à la lumière de tout ce qui a été dit... voyez, sur l'histoire de l'émotion, enfin le travail que vous avez fourni autour de la, de la puissance émotionnelle, finalement, peut-elle dépasser ou non ? Enfin, j'en sais rien, parce que l'émotion ne se contrôle pas, d'une certaine façon. Bah, dépasser, au contraire, sublimer, dépasser.
Évidemment, les émotions viennent à notre insu, mais elles se cultivent. Bien sûr, elle se cultive donc par des choix de vie, des décisions, de la volonté, et donc on peut cultiver l'admiration autour de ça, on peut cultiver la gratitude pour tout ce que l'on a. Et j'aimerais apporter un brin d'optimisme malgré tout. Moi, cette plasticité humaine et quels que soient les traumatismes, et on le voit, il y a plein d'exemples. Je mentionnerai au passage, sans faire de publicité, mais il y a une série de documentaires sur Netflix qui s'appelle I Am a Killer, où vous avez 44 maintenant cas d'une heure où sont brossés le parcours de ces êtres qui, évidemment, ont tous souffert dans leur enfance de traumatismes, d'abus sexuels, de manque d'amour, et qui, évidemment, ont eu un parcours criminel, mais qui, pour beaucoup, ont réussi aussi à surmonter tout cela. Alors maintenant, ils sont peut-être parfois dans le couloir de la mort, ou ils sont en prison à perpétuité, mais ils ont réussi à se rééquilibrer émotionnellement et à redonner un sens à leur vie et à trouver du goût à la vie. Et donc, voilà, c'est un exemple de cas aussi extrêmes, puisqu'on a parlé de cas extrêmes tout à l'heure. Je crois qu'il faut regarder aussi d'autres cas extrêmes et surtout ne pas se baser sur ces cas extrêmes pour regarder le cas général. Le cas général, la plupart des gens n'ont pas eu des traumatismes aussi énormes. Il est intéressant de voir que aussi quand le sentiment d'être insuffisamment aimé n'est parfois pas dans l'absolu, mais en relatif. Là, je travaille sur un certain nombre d'auteurs.
Subjectif, ça voulait dire par relatif ?
Non, c'est-à-dire qu'il est relatif, c'est-à-dire qu'il est en comparaison avec ses frères et sœurs, par exemple.
D'accord, oui, typiquement ça.
Et donc là, on est plus dans l'envie, en fait, que dans autre chose, un traumatisme, c'est-à-dire qu'effectivement, on a été moins préféré par les parents, et c'est déjà, pour certains, une carence. Et j'invite à lire les mémoires de Lassner, qui est ce grand criminel, où il ne fait que parler de ça dans son mémoire avant d'avoir été condamné à mort, de cette injustice...
Sentiment d'injustice
que son frère ait été préféré par ses parents, et il en souffre à toutes les pages. Et vous pourriez aussi lire les mémoires d'Outre-Tombe. Chateaubriand dit la même chose dans toute la première partie. Son frère aîné a été préféré par sa maman et il en a beaucoup souffert. Alors lui, il a eu un autre parcours que Lassner, mais c'est pour dire que... Et c'est injuste. C'est-à-dire que ce sentiment d'injustice, là, n'est plus... C'est pas que les parents ne nous aiment pas, c'est que visiblement, ils ont des préférences. Et ça aussi, ça peut être une grande source de souffrance. Et c'est une source un peu plus cachée et un peu plus sournoise et que beaucoup de gens ont. C'est qu'ils ont eu l'impression d'avoir pas été le favori.
L'élu, quoi.
L'élu. Et ils vont en avoir une névrose de comparaison et vont en avoir des complexes d'infériorité, ils vont en avoir de l'envie et qui peut les travailler toute leur vie. Et c'est une autre, je dirais, c'est un autre scénario de se sentir insuffisamment aimé parce que moins aimé que d'autres. C'est un autre, un autre aspect.
Alors, ce qui est intéressant, Stéphane Carjat, juste avant que nous séparions une deuxième fois, ça passe trop vite aujourd'hui. Vous évoquez dans l'un de vos chapitres, je ne trouve pas l'amour. Alors ça a déjà fait l'objet d'une émission d'émission pendant 4 ans, parce que ici, c'est le laboratoire pour essayer de comprendre ce qui se passe dans ce monde de brutes. Parmi les causes, dites-vous, de souffrance dans le champ de l'amour, la primordiale est sans doute celle de ne pas réussir à être aimé, notamment par ou celui que l'on serait susceptible d'aimer. C'est aussi la difficulté à tomber amoureux ou du moins à vouloir s'engager comme si on n'était jamais satisfait, etc., etc. Est-ce que ça, par exemple, comme cause, parce qu'il semble que ce soit... Et dans la société, quelque chose qui évolue, qui évolue de façon croissante.
Oui.
Est-ce que ça peut, par exemple, est-ce qu'on pourrait imaginer que, voilà, une génération de parents aient été un peu plus indifférents, par exemple, que les générations d'avant. J'en sais rien, je ne suis pas psy, c'est vous qui répondez.
Moi, j'aurais tendance à répondre que c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément ceux qui n'ont pas eu suffisamment d'amour qui n'en trouvent pas, parce que justement, ils savent mettre en œuvre les moyens, d'abord pour repérer quand il y a un peu d'affection chez l'autre, et pour attirer l'affection d'autrui. Donc, ces enfants-là, justement, s'en tirent peut-être mieux que ceux qui ont tout eu.
Trop,
au sens où qu'il y avait le sentiment que tout leur était dû, que c'était que les parents n'aimaient qu'eux, plus que leur partenaire amoureux, enfin plus, pourquoi pas, mais en tout cas de manière exclusive.
Voilà, ouais, ouais.
Le centre de. Mais quand on a vécu ça, c'est terrible, parce qu'évidemment, adulte, on attend, adolescent déjà, ouais. On attend qu'il nous arrive la même chose. On ne comprend pas qu'une telle ou un tel ne nous aime pas de la même manière que nos parents. C'est pas logique. On n'a fait aucun effort pour être adoré quand on est des petits. Donc, il n'y a pas de raison qu'adolescent, en plus, on est plus grand, on est plus compétent, pour qu'on ne l'ait pas. Et donc, il y a un vrai malentendu. Et on voit comme ça beaucoup de jeunes adultes qui ne comprennent pas pourquoi ils ne sont pas aimés et surtout qui ne font aucun effort. Je n'aime pas tellement ce terme en amour, mais enfin, qui cherchent pas, qui vont pas du tout s'occuper de l'autre. C'est-à-dire qu'ils considèrent que tout leur est dû. Mais l'amour, il faut un peu donner un peu quand même pour recevoir.
Bon, enfin, c'est pas bien, évidemment.
Et donc, qui ne sont pas du tout dans la recherche d'un partage. Ils ne se posent pas du tout la question de ce qu'ils pourraient apporter à autrui et qui ne comprennent pas pourquoi on ne les idolâtre pas, alors qu'en plus, ils ont des belles photos
sur les sites,
etc. Voilà, donc oui, non, c'est
tout
au contraire. C'est un truc là qui explique qu'aujourd'hui, ce sentiment de solitude. Et c'est vrai que les études des sociologues vont dans ce sens-là. Ça a l'air très compliqué de trouver sa paire, quoi,
ouais,
aujourd'hui.
Absolument. Cool, Joe Beloved, à part ça, Bob Marley et The Twail et The Wailers, bien sûr, sur Radio Notre-Dame et RCF. On se retrouve juste après, tout de suite.
En quête de sens, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. We'll be right back.
revoilà dans cette émission, nous revoilà dans cette émission en quête de sens après la coulitude de Bob Marley. Eh bien, on parle de choses, j'en ris un peu, mais n'empêche, c'est parce que Nietzsche est derrière moi, et il faut savoir rire de tout, et surtout du pire, disait-il. Voilà, je me cache derrière Nietzsche pour rire un peu. Thierry Pommier est avec nous, lui qui est conférencier, consultant et formateur en intelligence émotionnelle. Vous et votre livre, hein, Homo Emoticus, l'intelligence émotionnelle au service des managers chez Diaténo. Vous intéressez, en tout cas, vous êtes un passionné hein, des émotions, du travail des émotions. Thierry Pommier, Flavie Ten, sexothérapeute, thérapeute de couple, elle qui a publié Aimer de tout son corps aux éditions Erol. Thierry Gineste est avec nous, qui a une longue histoire d'enfant en partie abandonnée, on peut le dire, Thierry Gineste. Souviens-toi de moi dans les ténèbres aux éditions L'Harmattan, c'est votre histoire. Voilà, qui a été publié tout récemment. Et on peut peut-être mentionner hein, la réédition de cet ouvrage, Thierry Gineste. C'est une bible, hein, presque. En tout cas, vous êtes intéressé. Combien d'années vous avez travaillé sur Victor l'enfant sauvage hein? Combien d'années
combien
en tout
d'années, la première édition, c'est 81, le jour de mon mariage.
Ah bah écoutez, 81. Ouais, vous êtes marié, ça s'est bien terminé quand même, cette histoire.
Mais ça n'exclut pas la souffrance de la vie.
Absolument, on est bien d'accord.
Ça n'est pas thérapeutique, ces choses-là.
Oui.
C'est pas parce que les honneurs vous tombent dessus que ça soigne les blessures dont nous parlons, là,
ouais.
aujourd'hui.
Ouais. Hein?
Donc,
ouais.
c'est là où vraiment je suis en désaccord complet, je le répète, sur l'idée de la résilience. Peut-être même que parvenir à faire quelque chose à partir de ce qu'ont été les blessures de l'enfance, notamment, peut-être même que ça accumine, en quelque sorte, pour employer un vieux mot, ça rend encore plus aigu ce qui est insupportable dans la construction initiale
mais,
de la vie.
Mais est-ce que la vie n'est pas tragique de toute façon, autre émission
qu'elle
ne
sens bien sûr
pas, bon,
Mais
ben voilà.
bien sûr
Ça fait sourire
Bien sûr D'ailleurs, souviens-toi de moi dans les ténèbres et la dernière phrase de ouais. partage de midi, qui est un peu d'actualité, puisqu'il y a le soulier de satin en ce moment.
À la Comédie Française.
Et... cette dernière réplique, souviens-toi de moi dans les ténèbres, virgule, un moment qui fut à vigne, c'est-à-dire on rappelle, c'est la fiancée du monsieur qui est en train de mourir, c'est Isaac qui lui dit cela, donc, qui a été une aventure pour ce monsieur qui est en train de mourir, et elle part avec un nouvel amoureux, et elle lui dit, au fond, ne m'oublie pas, toi qui est en train de mourir et de m'oublier pour toujours.
Oui.
C'est ça le tragique de la vie. Bien sûr, les dérapages, les non-constructions initiales sont irrécupérables et il ne faut pas vouloir les récupérer. Il ne faut pas vouloir en faire quelque chose.
Mais chez lui, c'est vrai qu'il y a pas mal d'ouvrages. Alors, je suis désolée, moi qui suis le réceptacle de tout ce qui sort de pire ou de meilleur, je ne dirais pas qui est le pire, qui est le meilleur. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup d'ouvrages en ce moment, Flavie Ten et Stéphane Clergé et puis les amis Thierry, sur le fait de fréquenter, côtoyer ses ombres, ses zones d'ombre, les accepter, les regarder, les... Ça a peut-être du bon, finalement, ça va peut-être faire plaisir à notre ami Thierry Gineste, cette nouvelle tendance, j'en sais rien, c'est une tendance, mais c'est vrai qu'on soit plus en ce moment là, autour de ça, de cette notion-là, de, voilà, de cette expérience, d'accueillir ces zones d'ombre, quoi, Flavie Ten, de les connaître, de ne pas les fuir.
C'est l'approche jungienne, après l'ombre.
D'accord.
Mais c'est un chemin. Enfin, moi, je crois vraiment que, oui... être dans l'acceptation du réel, c'est-à-dire que dans la vie, il y a tout ce qui est beau, tout ce qui est fécond, joyeux, etc., dans l'expérience de la vie de chacun, et tout ce qui est tragique. Et donc, les optimistes vont avoir tendance à regarder tout ce qui est beau en étant un peu dans une forme de déni de fuite de la souffrance, et donc, ils ne sont pas complètement dans le réel. Les pessimistes vont peut-être être plus tournés vers la facette noire et sombre, etc. Et pour moi... ce que j'aime bien proposer, c'est une approche un peu réaliste, c'est-à-dire que la réalité, elle a ses deux facettes. Elle a cette facette joyeuse, lumineuse, elle a cette facette d'ombre et de souffrance. Et c'est en regardant ces deux facettes qu'on va pouvoir accepter notre réalité et avancer avec cette réalité, en s'appuyant sur ce qui est bon, sur ce qui est solide, pour aller réparer ou guérir ce qui est noir, ce qui est souffrant. Mais bon, c'est ça la réalité de la vie de chacun.
Oui, Stéphane Clerget, oui, je sentais.
Oui, repérer ce qu'il y a de ces ombres, hein, ouais. ces souffrances, mais aussi ces mauvais côtés, ça ne veut pas dire forcément trop s'en accommoder. C'est-à-dire que le danger de ça, c'est de dire, j'ai un bon côté, j'ai un mauvais côté, et j'assume le mauvais côté.
Il ne faut pas
oublier quand même qu'il y a quand même la morale et qu'il y a quand même les autres. Mmh. Et bon, c'est bien de s'intéresser à soi, mais ce n'est pas forcément comme ça qu'on devient adulte. On devient adulte en s'occupant des autres.
Ouais.
Des enfants, évidemment, les siens, ceux des autres, mais aussi des autres adultes. C'est-à-dire qu'on grandit en aidant les autres à grandir. Et ce n'est pas uniquement en se regardant le nombril. Donc il faut aussi être un peu prudent avec ça.
Alors je ne sais pas où je vais placer mes dépendants affectifs, mais ça ne fait rien parce que. J'ai quand même envie de comprendre d'où vient cette fameuse dépendance affective. Vous disiez tout à l'heure, toujours en antenne, Thierry Pommier, que de toute façon, l'amour, c'est quand même une forme de dépendance à deux.
Toutes les drogues que l'on prend viennent parce qu'il y a des carences affectives qu'on essaye de compenser. Donc, soit vous choisissez la drogue de l'amour, soit vous allez en chercher des artificielles. Et elles ne sont pas meilleures et l'addiction cause des plus gros tracas, à mon avis. Du coup, je pense que, évidemment, il y a un lâcher-prise, il y a une prise de risque, il y a une vulnérabilité dans l'amour et il faut l'assumer, il faut la vivre. Et on va peut-être en subir justement des traumatismes parce qu'on va être trahi, on va être abandonné, on va être trompé. Et évidemment, tout cela va évidemment nous blesser et nous blesser très très fort parce que justement on était tellement dépendant de cette personne que ces blessures ou même la personne va mourir, donc on a aussi la perte d'un être cher. Tout cela évidemment va nous faire énormément souffrir, mais je crois que le jeu en vaut la peine. On prend beaucoup de risques en aimant et on risque gros si ça se passe pas bien. En revanche, si ça se passe bien, eh bien c'est une source de guérison, parce que je crois que l'amour, vous avez dit c'est un remède, moi je pense que c'est le remède. Et que tout passe par l'amour et Dieu est amour, et qui n'a pas connu l'amour n'a pas connu Dieu, c'est ce que dit Saint Jean, parce que l'amour, Dieu est amour. Donc pour les chrétiens, c'est en plus, je dirais, leur vademécum, leur panacée. Et je crois que c'est pertinent sur le plan anthropologique que l'être humain, comme on le voit par les études de René Spitz sur les carences affectives, l'homme souffre de ne pas être touché, de ne pas être aimé, et il en subit des conséquences pour le restant de sa vie s'il ne l'a pas reçu. C'est bien que ça fait partie de notre être, de notre besoin d'aimer, et j'ai d'ailleurs aimé que vous ayez choisi comment aimer et non pas pourquoi ou faut-il ou à quoi bon aimer, puisqu'on a... Donc ça veut dire que vous évacuez la question de est-ce qu'il y a à aimer ou pas.
Parce qu'on est des gentils sur Radio Notre... sur
Mais parce que de toute façon, on a tous besoin d'aimer, et on a tous besoin d'être aimé. Il y a un très beau poème de Victor Hugo sur être aimé, où il dit « le cœur est lourd d'être vide ». Et donc, ce vide, il va falloir le combler, et on va soit par des êtres humains, soit par des moyens artificiels. Et je ne crois pas que ça soit mieux.
Thierry Ginès, pour terminer, est-ce que vous diriez qu'il faut... voyez, il vaut mieux pas trop... on surgâte aujourd'hui. On surcharge d'amour nos enfants. C'est une façon d'être... C'est too much, je crois.
Si on les surcharge, ce n'est pas d'amour.
C'est quoi ?
L'amour... là aussi, on pourrait citer un passage bien célèbre des Évangiles. L'amour, ça n'est pas d'écraser l'autre de tout... et de tout ce qui n'est pas l'amour, en particulier. Non. Je suis en désaccord assez complet sur ce que vient de dire mon...
C'est-à-dire que vous êtes en désaccord.
Non, pas du tout. Je suis en désaccord.
C'est le mot de la fin.
Non, oui, ça va être le mot de la fin. Et moi, je me réfère plutôt au poète, hein, Victor Hugo, pourquoi pas, ça je suis d'accord, mais Rainer Maria Rilke, qui disait « au fond, et pour l'essentiel, au fond, je cite verbatim, au fond et pour l'essentiel, nous sommes indiciblement seuls. » Et c'est là-dessus que peut se construire la
relation. Je vous invite à réfléchir sur cette dernière citation de Rick par Thierry Ginès. Merci infiniment les amis Thierry Pommier, Flavitaine, Thierry Ginès et Stéphane Clerget. Merci infiniment d'avoir été présent dans cette émission. Stéphane Clerget, ne plus souffrir en amour à la Musardine, et Flavitaine, aimer de tout son corps. Je rappelle enfin le livre de Thierry Ginès, Souviens-toi de moi dans les ténèbres chez l'Harmattan. Merci infiniment, bonne soirée à tous.
Merci.